9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Au début de la crise, Kamel Daoud a relu La Peste de Camus. Aujourd'hui, il écrit une fable qui puisse évoquer non pas la fin du monde, mais comme il le dit, la fin de tout un monde. L'écrivain journaliste confiné avec sa famille en Algérie, dans sa maison d'Oran, sera en ligne avec nous le demain de Kamel Daoud, dans un instant. Demain, une économie plus verte. L'ingénieur consultant Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project, a quelques idées sur la façon de prolonger les effets bénéfiques du confinement sur les émissions de CO2. Un plan détaillé de transformation pour une économie plus économe. Comment gouverner en temps de crise entre les peurs, les urgences et les incertitudes? Réflexion du philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Et puis demain, le livre qui a failli ne pas sortir, Les mémoires de Woody Allen, drôle et accablant pour son accusatrice Mia Farrow. Le journaliste du Point, Christophe Onodibio, qui vient d'interviewer le cinéaste, nous en donnera un avant-goût.
Europe 1, c'est arrivé demain.
Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Vous avez continué à chroniquer la marche du monde pendant tout ce temps où le monde ne marchait plus chaque semaine dans le magazine Le Point. Et au tout début du confinement, vous relisiez La Peste, le grand roman d'Albert Camus, évidemment le roman du mal et de la réponse de l'homme à la calamité, fléau qui peut assombrir ou illuminer, mener à la lâcheté ou à l'héroïsme, écriviez-vous. Alors 2 mois après, selon vous, qu'est-ce qu'il a emporté ?
Qu'est-ce qu'il a emporté ? Je ne sais pas. La fin de La Peste, elle est ouverte. Il dit, le narrateur, le chroniqueur dit que La Peste est dormante, elle n'a pas été vaincue. Effectivement, c'est à quoi nous sommes confrontés. Ce qui est extraordinaire, c'est que pour une fois, La Peste, je ne l'ai pas relue uniquement comme un roman symbolique ou comme une fable, mais quasiment comme un compte-rendu médical de la chose, de ce que nous vivons. On est effectivement confronté à de la peste. Ce n'est pas dans les mêmes proportions qu'autrefois, du point de vue du nombre des morts, mais c'est le même événement, c'est la même ampleur, c'est la même facture quelque part qui est payée par tout le monde.
Avec la peur du virus, la peur de mourir qui nous incite à nous réfugier dans la science ou dans les croyances, dans la rationalité ou dans les prophéties, là aussi, qu'est-ce qui est en train de gagner, de l'emporter ?
Nous sommes précédés depuis quelques mois par des collapsologues, comme je les appelle, des prophètes du fin du monde qui sont là, qui trouvent quelque part du pain béni. Mais ça reste un moment de réflexion sur soi, qu'on le veuille ou pas. On est tous obligés à certaines heures de la nuit d'être auprès des fenêtres et de réfléchir sur ce qu'on va faire et ce qu'on peut supporter encore. Donc ça reste un moment philosophique, ça reste un grand moment aussi politique et un grand moment d'angoisse économique. Est-ce qu'il faut travailler ou se confiner ? Est-ce qu'il faut sauver l'économie ou sauver des populations, et c'est un choix difficile. Est-ce que nous allons avoir faim ? Est-ce que nous allons pouvoir manger ? Parce que la question, elle peut paraître invraisemblable. Elle se posait peut-être lors des grandes famines du siècle passé, mais nous en sommes à ça aussi. Nous en sommes à nous interroger qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on va survivre ? Est-ce qu'on va manger à notre faim ? Est-ce qu'on peut se déplacer ? Qu'est-ce que les vacances maintenant ? Comment va être le droit de voyager et de se déplacer ? C'est autant de questions qui sont là. Nous sommes obligés de redéfinir les choses quelque part.
Sauver des vies ou sauver l'économie, c'est votre dernière chronique, choisir entre Darwin et Steve Jobs, mais le débat a été assez vite tranché dans la plupart des pays qui ont arrêté l'économie pour sauver des vies, non ?
Je ne sais pas. Il y a aussi des débats sur le reconfinement. Je pense qu'il y a des hésitations. On reproche beaucoup au gouvernement, en France notamment, sur cette forme d'hésitation entre ce qu'il faut faire. Mais la situation est inédite. C'est de l'ordre de l'impensé, de l'impensable pour le moment. On n'a pas de solution immédiate. Donc on tâtonne tous autant qu'on est. Je pense qu'il y aura un jeu de yo-yo sur quelques mois. Et la solution, elle est simple. Enfin, elle est simple et elle est complexe à la fois. C'est le vaccin. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, il y aura des tâtonnements.
Avec un changement d'habitude considérable sur laquelle vous avez écrit Kamel Daoud, c'est-à-dire la perte de proximité physique qui était une... Vous avez dit que c'était une vertu méditerranéenne et qu'elle est aujourd'hui bannie.
Oui, exactement. C'est quelque chose qui nous frappe. On a appelé ça la distanciation, les gestes barrières. J'ai appelé ça de la chasteté sociale. Mais vous imaginez comment va être l'avenir ? Je veux dire, cette forme d'hésitation que nous avons tous vécue, je pense, à un certain moment, lorsque nous croisons un ami qu'on n'a pas vu depuis 2 semaines dans un supermarché, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est 3 ou 4 secondes où nous ne savons pas comment témoigner de l'affection ou de la joie de la retrouvaille. On ne peut pas serrer la personne dans ses bras, on ne peut pas serrer une main, on ne peut pas embrasser. Ça va marquer pour quelque temps, sinon pour longtemps, nos habitudes. Surtout pour nous, les Méditerranéens, qui avons l'habitude de toucher l'autre, de le palper, de le serrer dans ses bras, d'être dans son périmètre, dans sa proximité. Et je pense aussi que le virus appauvrit en nous ce don de soi, cette habitude de se donner à l'autre, de rencontrer l'autre, de toucher l'autre. Et ça aussi, au-delà des morts, c'est une catastrophe.
Est-ce qu'il faut, selon vous aussi, faire des concessions au respect de sa vie privée, à son intimité? Est-ce que la peur de basculer dans une société de surveillance, de ne plus avoir de secret pour tous les monstres numériques auxquels nous sommes connectés, est-ce qu'elle n'est pas légitime, Kamel Daoud?
Je pense que l'intime et l'intimité est l'enjeu de l'avenir et qu'il s'agit à la fois d'accepter qu'il y ait des règles nouvelles, mais de défendre son droit à l'intimité. C'est vraiment un chemin de crête. C'est très difficile de dire oui et non. C'est à la fois oui et à la fois non. Je pense aussi que c'est un débat qui est quelque part dépassé. On peut toujours débattre de la liberté, du droit à l'intimité, mais tous nous avons un téléphone portable, tous nous avons une page Facebook ou Twitter ou sur les réseaux sociaux, tous nous avons une télévision connectée, tous nous cédons au télétravail maintenant. Donc, je ne sais pas. C'est un débat ouvert qu'il s'agit de mener avec beaucoup de prudence. Personnellement, je réagis aussi beaucoup avec ma sensibilité. Je suis victime d'un tox depuis des années. J'ai déposé, par exemple, des plaintes en Algérie qui n'ont jamais eu de suite parce qu'il n'y a pas de législation en la matière. J'aimerais bien qu'il existe des lois qui me protègent, qui protègent ma vie, qui protègent ma famille. Et d'un autre côté, je ne veux pas que ces lois servent à amoindrir ma liberté, à porter atteinte à ma liberté. Donc, je ne sais pas comment vous répondre avec exactitude. Je suis à la fois quelqu'un qui veut que sa vie soit protégée par des lois contre les fake news, mais d'un autre côté, qui veut que sa liberté soit protégée.
Je ne sais pas, c'est l'une des phrases de cette période, de cette crise. L'une des figures de cette histoire restera Donald Trump, le plus inconséquent des dirigeants partant de crise. Alors on dit souvent que Trump ne ressemble à aucun autre. Eh bien vous, Kamel Daoud, vous avez dit si, il se rapproche ou il ressemble au colonel Kadhafi.
Oui, effectivement, et je le pense sincèrement. Je veux dire, bon, la facture en vie humaine n'est pas la même. Trump n'a tué personne pour le moment, il tue du temps. Mais ce côté loufoque, ce côté excentrique, cette légèreté dans l'exercice de la gouvernance, ce mépris pour les vies d'autrui, cette insolence aussi, cette outrecuidance, ça rappelle quand même Kadhafi et ce qu'il a fait de son pays. Et je conclue, je le crois, que si on donne à Trump le même délai au pouvoir, c'est-à-dire 42 ans, je pense qu'il est capable de détruire l'Amérique. C'est à la fois un génie en matière de communication pour moi, c'est un génie accidentel, mais d'un autre côté, c'est un désastre politique pour son pays et pour le reste du monde.
Mais Trump est un génie de la communication, vous le pensez ?
Ah, je le pense sincèrement. C'est quelqu'un qui sait occuper les médias. Il a compris que la viralité est plus importante que la vérité. Dire une chose fausse, spectaculaire, qui est reprise par tout le monde, occupe les esprits. Et c'est plus rentable politiquement ou du point de vue de la présence médiatique, du poids médiatique, que de dire une vérité qui ne sert à rien. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris l'époque. Et comme à chaque fois, ce sont les populistes qui comprennent le mieux les instruments nouveaux de la communication. Et c'est assez fascinant. Je me rappelle de sa trouvaille pour annoncer la mort de Baghdadi, par exemple. Il savait qu'il ne pouvait pas faire mieux Obama, lorsqu'Obama avait annoncé la mort de Ben Laden. Mais comment faire mieux? Il suffit de tweeter qu'il félicite le chien qui a aidé à trouver Baghdadi. Et croyez-moi, c'est un tweet qui sera beaucoup plus partagé qu'un simple communiqué du Pentagone, un communiqué classique. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris à la fois la futilité et la férocité des réseaux sociaux et qui l'en use avec excès, mais avec intelligence aussi, avec beaucoup de ruse.
Dernière question, Kamel Daoud, une curiosité. Que faites-vous dans cette période? Vous écrivez?
Au début, ça a été très difficile. Je n'arrivais pas à lire ni à écrire. J'étais totalement intoxiqué par le fil de l'actualité. Je voulais voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment les autres pays réagissent, comment les individus réagissent, comment les personnes réagissent. Au bout de la troisième semaine, je me suis remis à l'écriture. Mais en même temps, il fallait réparer quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Comment faire plus en termes d'invraisemblable, d'inattendu que le virus, quelque part? Donc au début, c'était paralysant. Mais au bout de 2 semaines, je me suis habitué. Et donc maintenant, je suis revenu un petit peu à mes habitudes, c'est d'écrire le matin et de lire l'après-midi.
Et vous avez trouvé la réponse ?
Oui, j'ai essayé de penser comment inventer une fable à partir du confinement, mais comment, disons, reconvertir la solitude. Est-ce que ce n'est pas une occasion de réfléchir sur la futilité, par exemple ? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'écrire sur nos propres habitudes ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un roman sur les fenêtres ? Faire l'éloge des fenêtres maintenant, enfin, beaucoup d'idées qui viennent. Donc, il y a eu une période de sidération au début, mais je pense que comme tout le monde, et comme vous le disiez tout à l'heure, on commence plus ou moins à retrouver ou à concevoir des habitudes plutôt qu'à retrouver des habitudes.
Merci beaucoup, Kamel Daoud, de nous avoir donné cet entretien, d'avoir été en ligne avec nous depuis Oran, en Algérie. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, comment faire pour que la pandémie accélère l'économie verte ? L'ingénieur consultant Jean-Marc Jancovici, qui a des idées et des propositions pour bâtir une économie économe, sera notre invité. À tout de suite.
Europe 1. Comme chaque dimanche, on vous retrouve, Patrick Cohen, pour cette arrivée demain.
Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Ingénieur consultant en climat énergie, président du cercle de réflexion The Shift Project. Avant de voir vos propositions, ce constat, la Terre respire mieux depuis le début de la crise. Les confinements et l'arrêt des activités économiques ont fait chuter les émissions de CO2 de plus de 5% au premier trimestre, d'après les premières estimations. En réalité, c'est ce qu'il faudrait faire chaque année pour être dans la trajectoire de l'accord de Paris ?
C'est à peu près ça, oui. En fait, on a la physique et la chimie contre nous dans cette histoire, parce que le principal gaz à effet de serre que nous émettons, qui est le dioxyde de carbone, a la très mauvaise idée d'être éternel une fois qu'il est dans l'atmosphère, tant qu'il ne revient pas en contact avec le sol. La seule manière de retirer du CO2 de l'atmosphère, c'est qu'il soit repris par les plantes, par la photosynthèse, ou qu'il se dissolve dans l'océan. Et ça fait que le CO2 ne décroît que très très lentement une fois qu'il est dans l'air. Et donc tout le CO2 qu'on a mis dans l'air, maintenant il faut vraiment s'arrêter d'en mettre et donc décroître très très vite nos émissions. Et pour respecter les 2 degrés d'élévation maximale de température entre ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire 1850, avant qu'on commence à s'amuser avec les machines à vapeur, et 2100, eh bien il faut que les émissions se mettent à baisser de 5% par an, tous les ans, par rapport à l'année précédente, pour les 30 ans qui viennent, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, il nous faudrait un Covid supplémentaire tous les ans, pour donner un ordre de grandeur, pour qu'on respecte les 2 degrés. On ne se rend pas compte à quel point c'est un effort titanesque. Il se trouve que l'accident que nous sommes en train de vivre en ce moment donne une meilleure idée de l'effort qui nous attend, et j'espère que ça va un peu réveiller les esprits et qu'on ne va pas penser que ça va arriver comme ça d'un claquement de doigts.
Alors justement, votre idée, c'est pas de tout arrêter un mois par an. Vous venez de publier avec The Shift Project un document de 50 pages avec un plan de transformation de nos activités essentielles, un plan concret et détaillé. Hein. C'est pas de l'idéologie ou de l'incantation, Yaka Faucon, le temps est venu, etc. L'idée, c'est de trouver pour chaque secteur des solutions pour le rendre plus sobre, moins dépendant des énergies carbone.
Alors c'est exactement ça l'idée. Hein. Les émissions de CO2 viennent de l'utilisation de ce qu'on appelle les combustibles fossiles, alors très précisément pétrole, gaz et charbon. On les appelle combustibles fossiles parce que c'est des fossiles, c'est des restes de vie ancienne sédimentés par la géologie. Et il faut qu'on arrive à faire 5% de moins de ces combustibles, en clair, tous les ans. Alors le gros problème, c'est que c'est ça qui a fait la révolution industrielle, notre pouvoir d'achat, l'urbanisation, l'industrialisation, les transports faciles, l'agriculture pas chère, etc. Donc ça va pas se faire d'un claquement de doigts non plus. Ce que nous avons déjà publié, c'est notre plan de travail en fait. On a dit dans quel cadre on allait réfléchir et ce à quoi on allait réfléchir. Et le gros problème, pour être tout de suite désagréable, c'est que comme ces combustibles ont permis de mettre plein de machines au travail et d'augmenter très fortement la production, donc notre pouvoir d'achat, faire avec de moins en moins de combustibles fossiles, pour dire un gros mot tout de suite, c'est malheureusement travailler dans un contexte dans lequel l'économie n'est plus en expansion mais en contraction. C'est bien ça le gros problème. Et par ailleurs, tous les gens qui en ce moment ont peur ou ont déjà perdu de perdre leur emploi parce que ce qui est en train de nous arriver va se payer de quelques millions de chômeurs, se disent légitimement qu'un truc essentiel dans la vie, c'est quand même d'avoir un job. Donc le cadre dans lequel on va travailler, c'est comment on fait pour avoir un boulot dans un contexte dans lequel les émissions, donc globalement, l'économie se contracte et tout en assurant à chacun une forme de confiance en l'avenir. Voilà, c'est ça l'espèce de quadrature du cercle à laquelle on va s'attaquer. Et pour être pragmatique, on va s'y attaquer secteur par secteur. Donc comment on fait pour se déplacer, comment on fait pour se loger, comment on fait pour se nourrir, comment on fait pour s'habiller, etc. Et on va faire ça en deux temps. Le premier temps, c'est dans quelques semaines, on va faire des suggestions de contrepartie qu'il faudrait demander immédiatement au secteur qu'on est en train d'aider pour pas qu'il recommence comme avant. Manifestement, dans ce monde-là, par exemple, il n'y aura pas autant d'avions qui volent. Alors au moment où on donne un chèque à Air France, est-ce qu'on lui dit repartez comme avant ou est-ce qu'on lui dit non, faites autre chose tout de suite, là maintenant, il y a des lignes que vous allez tout de suite fermer où on va tout de suite diminuer le nombre de créneaux au décollage à Orly et à Roissy et vous allez vous réorganiser en fonction. Pareil pour la construction automobile, pareil pour le bâtiment, pareil pour le tourisme, etc. Donc ça, c'est dans quelques semaines. Et après, entre l'été et la rentrée, on soumettra quelque chose de beaucoup plus détaillé. On va un peu faire concurrence à Monsieur le maire, donc d'une certaine manière, ou plus exactement, on espère être écouté par lui, pour donner des grandes lignes et des choses assez concrètes. On va parler emploi, on va parler objet, on va parler choses à faire. On va pas parler argent tout de suite, parce que l'argent, en ce moment, ça se crée. C'est pas très difficile. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de savoir dans quoi les gens vont travailler et pour faire quoi.
Et oui, pour prendre cet exemple que vous venez de citer, des milliers de salariés, des millions de familles qui ont beaucoup à perdre parce qu'elles vivent de l'automobile et de l'aéronautique. Vous avez des idées pour eux, pour elles, Jean-Marc Jancovici ?
Il faut bien distinguer deux choses quand on parle de l'économie. En fait, il faut distinguer les entreprises et les gens qui y travaillent. Ce qui va être important de notre point de vue, c'est les gens qui y travaillent. Je vais être tout de suite très désagréable. Si les actionnaires perdent leur argent, on s'en fiche complètement. Actionnaire, c'est pas une garantie de capital. Ça ne l'a jamais été. Moi, il se trouve que je suis actionnaire. À côté d'être président du Chiffre Project, je suis associé d'une société de conseil, donc je suis capitaliste. Et si jamais je perds mon capital, ça fait partie de la vie, ça fait partie des risques que j'ai pris. On m'a jamais signé un contrat me garantissant que cet argent-là était inaliénable. Donc l'entreprise elle-même ne sera pas nécessairement au cœur de notre réflexion. Par contre, les gens qui y travaillent, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait des gens qui travaillent dans l'automobile ? D'abord, il faut savoir qu'une partie des gens qui y travaillent aujourd'hui ne sont pas en France. Donc on va faire un distinguo nécessairement entre ceux qui y travaillent en France et ceux qui ne travaillent pas en France. Ensuite, il va y avoir des choses qu'on peut faire à bref délai et des choses qu'on peut faire à plus long terme. Donc il faut regarder par exemple les flux d'entrée-sortie. Regardez avec comment est-ce qu'on peut jouer. Vous pouvez très bien, pendant un temps, embaucher moins de gens que vous n'en faites sortir à cause des départs à la retraite. Et à ce moment, vous avez naturellement un secteur que vous pouvez faire baisser en effectif, pendant que ailleurs, et c'est toute la difficulté en général, vous augmentez les gens qui travaillent. Pour prendre un exemple, il y a un chantier dont on parle régulièrement depuis des années dans ce pays, qui est la rénovation du bâtiment. Vous savez qu'il va falloir modifier fortement beaucoup de bâtiments pour les rendre plus économes en énergie. Ça demande de faire rentrer des gens. Un rapide calcul montre qu'il faudrait quelques centaines de milliers de personnes en plus dans l'artisanat du bâtiment. Et en fait, la vraie question, c'est pas tant comment est-ce que vous faites un peu diminuer chaque année les gens qui travaillent dans l'automobile, ça c'est pas très très compliqué. La vraie question, c'est comment vous faites rentrer des gens, comment vous formez des compétences, comment vous leur donnez envie d'y aller, comment, etc. Ça va aussi être ça la question qu'on va se poser.
Beaucoup de questions encore à vous poser, Jean-Marc Jancovici. Vous restez avec nous, on va poursuivre dans un instant, après une pause.
Europe 1, de 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Avec Jean-Marc Jancovici qui dirige Shift Project, cercle de réflexion consacré à la transition énergétique, qui formule des propositions, on vient de l'entendre. Vous êtes une voix qui compte, Jean-Marc Jancovici, dans le débat sur le climat et l'énergie, expert très reconnu, mais avec deux singularités. Vous prenez à la fois le nucléaire, source d'énergie la plus décarbonée, que vous jugez indispensable pour la réduction des gaz à effet de serre, et aussi, vous venez d'en parler, la décroissance pour atteindre le même objectif. Est-ce que c'est tenable aujourd'hui dans nos économies appauvries et en récession et qui n'attendent justement que le retour de la croissance et de la prospérité ?
Alors malheureusement, on va pas tellement avoir le choix. C'est bien pour ça qu'on pense qu'on fait œuvre utile et on n'a pas envie d'être des prophètes de malheur et de dire aux gens, vous allez en baver. Pas du tout. On a plutôt envie de dire aux gens, vous savez, ce qui a fait la croissance jusqu'à maintenant, c'est la disponibilité croissante des combustibles fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon. Et il se trouve qu'en Europe, cette disponibilité est déjà contrainte à la baisse. En fait, elle y est contrainte depuis 2006. Quand on regarde très très bien ce qui s'est passé dans le monde occidental et très précisément et en détail, en fait, ce qu'on a appelé la crise des subprimes en 2008, c'était c'était déjà une crise énergétique. Ça a été précédé par une stagnation de la production mondiale de pétrole, le début du déclin du pétrole conventionnel, tout ce qui n'est pas le shale oil, le pétrole de schiste et les sables bitumineux. Et il y a un lien direct et assez facile à établir entre ce qui s'est passé dans le monde économique et ce qui s'est passé avant dans le monde énergétique. Et là, nous sommes en train de revivre une accélération une évolution de même nature. Il se trouve que la production totale de pétrole dans le monde, donc même en rajoutant ces pétroles dits non conventionnels, s'était arrêtée de croître depuis quelques années, était probablement passée par un maximum fin 2018, et vous voyez que depuis fin 2018, le commerce mondial avait commencé à stagner, voire décroître, la production industrielle dans l'OCDE avait commencé à décroître, etc. Et ce mouvement va s'accélérer dans les années à venir. Donc, malheureusement, très mauvaise nouvelle pour vos auditeurs, nous ne retrouverons pas la croissance dans les années à venir, et probablement que le niveau de production que nous avons connu en 2007 sera pour l'Europe un maximum historique auquel on va avoir du mal à revenir. Donc c'est bien dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir. À partir du moment où vous savez de façon absolument certaine que votre fiche de paye ne va pas augmenter, mais même légèrement s'éroder à l'avenir, la raison commande de voir comment on arrive à s'organiser dans ce genre de monde et comment on arrive à ne pas perdre espoir dans ce genre de monde.
Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites, Jean-Marc Jancovici. D'abord, c'est que la sortie de l'énergie carbone va se faire de gré ou de force. De force parce que la ressource pétrole diminue et qu'elle va s'éteindre progressivement dans les prochaines décennies.
En Europe, on est déjà de force, malheureusement.
Déjà de force. Et la deuxième chose, c'est que vous expliquez que notre source de croissance, c'est le pétrole, c'est l'énergie carbone.
Oui.
Vous êtes sûr de ça?
Oui, parce que c'est ça qui a permis de nous construire un costume d'Iron Man pour de vrai. Grâce aux machines qui fonctionnent avec du pétrole, du gaz et du charbon, et même en France, l'essentiel des machines fonctionne au pétrole. Nos voitures fonctionnent au pétrole, nos camions fonctionnent au pétrole et au gaz, allez, on va dire au combustible fossile. Nos chaudières fonctionnent au fioul et au gaz bien avant de fonctionner à l'électricité. Une bonne partie des machines industrielles, en particulier toutes celles qui permettent de fabriquer de l'acier, du plastique, du ciment, etc., fonctionnent au charbon, au gaz et au pétrole. Donc les combustibles fossiles, c'est ça qui ont permis de mettre en route un énorme costume d'Iron Man qui a multiplié la puissance de nos muscles par 1000, 1 million, 10 millions parfois. Un laminoir industriel, il est puissant comme 10 millions de fois les muscles de l'ouvrier qui le commande. Donc c'est ces machines qui nous ont donné une puissance surhumaine et qui permettent de faire la production. C'est pas vous ni moi qui avez fait l'acier qui permet de faire les boutons que vous portez sur vous et la voiture que vous avez peut-être utilisée ce matin. Donc c'est les machines qui produisent tout ça. Et avec moins d'énergie, vous avez moins de... Alors une expression que j'utilise souvent, c'est des croquettes pour machines, hein, l'énergie. Donc vous avez moins de nourriture pour machines et donc moins de machines au travail et donc moins de production. Malheureusement, c'est très mécanique et il va falloir qu'on fasse avec.
Alors, je reviens à ma question de départ. Est-ce que la décroissance n'est pas synonyme forcément d'appauvrissement généralisé ?
Au sens où on l'entend classiquement avec le PIB, évidemment que si. Maintenant, la question, c'est encore une fois, sachant que de toute façon, on ne va pas y échapper, comment on s'organise ? Vous savez, dans les modèles économiques qu'on utilise aujourd'hui, la croissance n'est jamais une conclusion du modèle avec des hypothèses qui tiennent la route, c'est une donnée d'entrée. Alors ça va peut-être vous étonner ce que je vous dis, mais la croissance, elle est postulée dans les modèles. Les modèles ne prévoient pas la croissance. Ils prévoient, allez, on va dire, une modulation de cette croissance en fonction de la manière dont on s'organise, mais elle est toujours postulée au départ. C'est ça qui est très étonnant. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est comme ça que ça marche. Et si les modèles étaient prédictifs, on aurait vu venir la crise qu'on a en ce moment. Donc la croissance, malheureusement, c'est un souhait, parce qu'on a des désirs de croissance. Il y a des neurobiologistes qui expliquent très bien ça. Notre cerveau primitif, qui date d'il y a des dizaines de milliers d'années, il est câblé pour qu'on en veuille toujours plus parce qu'on ne sait pas quand sera la prochaine fois où on aura à manger ou la prochaine fois où on aura l'occasion d'avoir ceci ou cela. Du coup, on a beaucoup, beaucoup de mal à se limiter. Mais c'est un désir. La planète, elle est ce qu'elle est. Et malheureusement, à 8 milliards d'individus, il y a des moments où nos désirs, ils butent sur l'horizon physique du possible.
Je reviens.
Un drame. Oui. Si on sait s'organiser. Encore une fois, ce qui est essentiel, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Et moi, je considère qu'un monde qui va se contracter alors qu'on nous raconte des sornettes sur le fait que la croissance va revenir est un monde beaucoup plus dangereux qu'un monde qui sait s'organiser pour qu'on conserve de l'espoir dans ce genre de contexte.
Je reviens à votre plan, Jean-Marc Jancovici. Je le disais, ébauche de plan, mais détaillé chapitre par chapitre, mobilité, énergie, logement, santé, industrie, culture, agriculture. Est-ce qu'on peut tout faire en même temps ou est-ce que vous estimez qu'on pourrait définir un ordre de priorité ?
Alors, ce qu'on va devoir définir, c'est un ordre de priorité dans les moyens. Et vous parliez tout à l'heure du nucléaire. En fait, mon tropisme pour le nucléaire vient exactement de cela, vient d'un ordre de priorité pour les moyens. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, vouloir remplacer du nucléaire qui est là, qui fonctionne, qui en France n'a tué personne, alors qui fait courir des risques, mais le tabac en fait courir beaucoup plus chaque année et il reste en vente libre. Donc je suis pas sûr qu'il faille commencer par supprimer le nucléaire avant de supprimer le tabac. Eh bien, vous avez un ordre de priorité sur les moyens. Donc à partir du moment où on peut pas tout faire, il me paraît plus urgent de reconvertir une partie de la circulation automobile en autre chose, de réorganiser le paysage agricole, de réorganiser nos villes et de nous occuper des logements, que de remplacer des centrales nucléaires, qui ne présentent pas de danger plus que ça quand on compare à autre chose, par des éoliennes et des panneaux solaires. Voilà, c'est ça le... C'est au titre de cet ordre de priorité que je considère que le nucléaire, c'est très très bien dans son principe. Après, ça ne veut pas dire qu'au sein même du nucléaire, il n'y ait pas un débat. On peut discuter, si on veut, de est-ce qu'il faut construire des EPR tout de suite ou prolonger les centrales. Ça, c'est un débat intéressant du reste. Mais le fait qu'il faille conserver, voire augmenter de l'énergie nucléaire pour amortir globalement le risque de se retrouver dans une situation inconfortable est pour moi la conséquence de ce que je viens de dire, c'est-à-dire un ordre de priorité dans les combats. Et quand on est en course contre la montre, il faut vraiment bien choisir ses priorités parce qu'on n'a pas deux essais.
Un mot rapidement, Jean-Marc Jancovici, sur la poursuite du chantier que vous avez lancé. Donc vous avez lancé un financement participatif, un appel à consultation sur ce document.
Oui, alors on a lancé un financement participatif parce que le Shift Project est une association d'entreprises. C'est une des particularités de notre association. Donc on est une association environnementale. On s'intéresse à la question environnementale. On est quand même financé par des entreprises. Alors les gens vont dire, si on est financé par des entreprises, on n'est pas libre de notre parole. Un peu quand même, parce que les entreprises qui battent les pieds chez nous savent un peu à quoi ressemble mon indépendance d'esprit. Mais par contre, sur ce chantier-là, on n'avait pas le temps d'aller discuter avec des mécènes entreprises en leur disant est-ce que ça vous intéresserait de financer ça. Donc on s'est lancé dans une première, mais qui restera limitée à ce chantier, qui est qu'on a fait appel au grand public en lançant un chantier, effectivement un financement participatif, et on a eu l'énorme surprise, parce que moi je m'y attendais pas du tout, de voir que l'objectif qu'on vise, alors qu'on se donnait 3 mois pour l'atteindre, en 15 jours, là on l'a quasiment atteint. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse appétence à mon avis pour ce sujet-là, et c'est un motif d'espoir que j'ai, c'est que je constate que dans la situation actuelle, qui est quand même une situation dure, il y a encore une fois des millions de gens qui vont perdre leur job. Il me semble que l'intérêt pour bâtir un monde environnementalement meilleur ne faiblit pas. Au contraire, un certain nombre de gens placent de l'espoir dans le fait que ce grand coup sur la tête là, qu'on va prendre va nous être utile pour changer la manière dont on s'organise pour l'avenir.
Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Je rappelle le titre de votre think tank, The Shift Project, et on peut trouver sur votre site évidemment ce document et toutes les informations nécessaires. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin.
Eh bien, merci à vous.
Europe 1.
Des risques et des difficultés de gouverner par temps de crise, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot dans un instant.
Europe 1. C'est arrivé demain, on continue avec vous Patrick Cohen.
Bonjour Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour.
Président du Collège de philosophie, professeur à la Sorbonne et à Sciences Po, auteur l'an dernier de « Comment gouverner un peuple roi ?», question toujours d'actualité en France, qui devient aujourd'hui « Comment gouverner en temps de crise ?». Comment arbitrer entre la santé, la prospérité et les libertés quand le premier impératif s'opère au détriment des deux autres ? Vous avez une réponse ?
C'est ça, c'est un choix politique majeur, d'ailleurs, qui offre une espèce de cartographie des possibles dans le monde, dans nos régimes, disons, libéraux, occidentaux, de type État-providence, ont privilégié la santé et les libertés, parfois au détriment de la prospérité, ça a été le choix. Dans des régimes plus autoritaires, on va considérer que la santé et la prospérité sont essentielles, et puis on peut prendre quelques libertés avec les libertés. Et puis dans les régimes qui sont plus, alors on l'appellera néolibéraux, c'est un peu le choix de Trump notamment, on va faire en sorte que la prospérité, elle, va vraiment rester en place au détriment éventuellement de la santé, en maintenant malgré tout effectivement des libertés, notamment la liberté d'entreprendre. Donc on a une belle cartographie de ce qu'on peut appeler une sorte de trilemme, c'est-à-dire un dilemme à trois solutions. Et voilà. Après, c'est dynamique, c'est-à-dire que ça engage des politiques qui vont s'inscrire dans le temps. Évidemment, on voit aujourd'hui que, notamment en France, il va quand même falloir s'occuper un tout petit peu d'économie, parce que la crise sanitaire peut-être est en train de s'achever, mais la crise économique, elle commence.
Oui, vous parlez du risque du sanitarisme. Que voulez-vous dire ?
Alors ça, c'est un point qui, sur lequel il faut être vigilant. C'est-à-dire que d'un côté, on a, c'est une énorme qualité de nos sociétés. C'est-à-dire que nous sommes, mettons la vie des gens au cœur des choses et au cœur des politiques, ce qui n'était pas le cas. On a tous en tête maintenant, c'est une référence qui a été souvent utilisée, la grippe de Hong Kong de 1968-69, où d'une certaine façon, une grippe beaucoup plus d'ailleurs grave en termes de mortalité que celle que nous vivons actuellement. Voilà, est passé quasiment inaperçu. Aujourd'hui, on met vraiment la vie, et pas forcément la vie des jeunes, mais aussi la vie des vieux, au cœur du dispositif. Et ça, c'est une, je trouve, plutôt intéressant et plutôt positif, et plutôt un signe du fait que nos sociétés ne sont pas, comme on le dit trop souvent, focalisées sur le marché, sur le consumérisme, sur le matérialisme, etc. Mais après, il faut faire attention à une autre face de cette idée. C'est que la santé, en fait, est un concept extrêmement difficile à appréhender. La définition de l'OMS de la santé, c'est l'état de bien-être physique, mental et social. C'est quand même un concept ultra ambitieux. C'est-à-dire que moi-même, si je puis dire, je suis pas sûr d'être en parfaite santé au regard de ce critère. Donc, en fait, au nom de la santé, on peut englober tout. La vie personnelle, la vie individuelle, et donc la santé est certes un droit, ça c'est formidable, mais c'est un droit qui est un peu obscur et extrêmement vaste. Et par ailleurs, comme la société fait beaucoup pour ma santé, d'une certaine façon, ça induit que je dois faire beaucoup pour ma santé, non pas simplement pour moi, mais pour la société. Oui. Et donc, voilà, il y a une sorte de confusion et de risque que, au nom de la santé, encore une fois concept confus, eh bien, les libertés individuelles puissent être mises à mal.
Oui, alors les libertés, c'est... Mais pour rester sur la santé, il y a un risque de rayon paralysant pour l'action politique, qui est d'ailleurs maintenant dans la Constitution, c'est le principe de précaution. Vous dites le principe de précaution, ça ne doit pas, ça ne peut pas être le risque zéro.
Oui, enfin, le principe de précaution, quand on le regarde à la lettre, est un principe qui est assez subtil. Hein. C'est un principe qui consiste à dire, voilà, on ne sait pas tout. Il peut y avoir des actions qui ont des conséquences extrêmement graves et surtout irréparables. Donc, la logique du principe de précaution, c'est ça. Ça concerne pas toute la... C'est pas simplement, attention, faut faire gaffe. C'est vraiment un principe qui vise des risques extrêmement bien identifiés, ou plus exactement, dont on sait qu'on les identifie mal, mais dont on peut penser qu'ils soient catastrophiques et irréparables. Aujourd'hui, ce principe de précaution, c'est vrai qu'on l'applique à n'importe quoi. C'est d'une certaine façon, la maman dit à son enfant, mets ton cache-nez au nom du principe de précaution. Donc le truc devient complètement délirant et d'une certaine façon empêche l'action. C'est-à-dire qu'on devient synonyme de ce qu'on peut appeler le risque zéro, en effet. Et donc, comme la vie est par définition risquée, ça bloque absolument toute action et ça effectivement... fait en sorte que l'avenir, dont on voit qu'il a des décisions importantes à mettre en œuvre pour le penser et pour le concevoir, on vient de l'entendre, eh bien tout ça se réduit à néant.
Quelle leçon pourra-t-on tirer de l'exercice du pouvoir dans nos démocraties et dans la nôtre, en particulier après cette crise, Pierre-Henri Tavoyau?
Je pense que ça, si on regarde ça sur une séquence un peu longue, depuis les Gilets jaunes jusqu'à cette crise, ça montre la plasticité de nos institutions et leur fonctionnement, je crois, assez bon. Voilà, il n'y a pas tellement de motifs d'optimisme, gardons celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'on a eu, au moment des Gilets jaunes, une demande de démocratie qu'on appellerait horizontale ou participative, avec l'idée qu'il fallait des référendums tout le temps, etc. Dans les périodes de crise, on voit très bien que c'est au contraire un appel à l'exécutif. C'est-à-dire qu'on veut des pilotes. On veut des pilotes non pas simplement pour piloter, mais aussi pour pouvoir râler contre eux, les dégommer, les critiquer, les considérer comme mauvais. On adore en France détester nos dirigeants. Mais voilà. Et donc, je crois que la leçon à tirer, c'est que il ne faut pas trop changer nos institutions, ni en renforçant trop l'exécutif, ni en faisant en sorte qu'il y ait des procédures qui seraient extrêmement complexes assez inadaptées aux périodes de crise qui soient des procédures de démocratie participative. Je crois qu'on a un système qui a bien fonctionné. On est très loin de l'effondrement annoncé. Voilà, ça a plutôt fonctionné. Notre système de santé a tenu. Des mécanismes de solidarité extraordinaires ont été mis en place. Alors, tout n'a pas bien marché, soyons clairs. Ça, il faudra faire un bilan extrêmement précis de ce qui n'a pas fonctionné. Mais dans l'ensemble, on est très très loin de l'effondrement dont on pouvait, que l'on pouvait craindre et que certains annonçaient, d'ailleurs avec un peu de jouissance dans la voix.
Oui, mais quand même, vous entendez ce qui monte dans la société, une partie de la société contre le gouvernement. C'est apparu dès le premier jour du confinement de la part de collectifs de citoyens, de soignants. Vous aurez des comptes à rendre, oui. Il y aura des procès, demande légitime.
Alors, les procès, je pense pas. Les procès, ça sert strictement à rien. Et je pense que la vraie reddition de compte en démocratie n'est pas une reddition de compte qui exige des condamnations et qui exige même des accusations. Ça, c'est pas du tout le but. Il faut, en revanche, revenir scrupuleusement dans les semaines qui viennent sur l'ensemble du processus de décision et examiner ça. Non pas pour mettre des gens au pilori ou, je veux dire, chacun a conscience, enfin, tous les gens un peu raisonnables que décider dans cette période d'incertitude, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il faut juste être un peu honnête en se disant, si j'étais à la place d'Edouard Philippe ou d'Emmanuel Macron, est-ce que j'aurais fait mieux, est-ce que j'aurais fait... Bon, il faut vraiment avoir cette lucidité-là. Mais en revanche, il faut effectivement regarder très scrupuleusement, et ça c'est une tâche, me semble-t-il, qui est attribuée au Parlement, ou plutôt que le Parlement doit prendre en charge, Sénat et Assemblée, pour en tirer des leçons. C'est capital, c'est se dire sur l'hôpital, pourquoi ça a pas aussi bien marché qu'on pouvait le penser, sur la gestion de crise, sur les alertes d'experts, sur la captation de signaux à l'égard des pandémies, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc cette reddition politique de compte, il faut la faire. Encore une fois, c'est pas une reddition simplement électorale, c'est pas une responsabilité simplement juridique ou judiciaire, mettre les gens en taule ou en procès. Vraiment, ça, sur le plan du collectif, ça sert pas à grand chose. C'est pas une question de vengeance. C'est vraiment d'étudier le mécanisme et d'en tirer des leçons.
Merci beaucoup, Pierre-Henri Tavoyot. Dernier livre paru, Comment gouverner un peuple roi, chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Woody Allen se défend et s'amuse à raconter sa vie. Mémoire à paraître paraître début juin en français chez Stock. Le journaliste du Point, Christophe Onodibio, nous en parle dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, c'est Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Bonjour Christophe Onodibio.
Bonjour Patrick Cohen.
Directeur adjoint de la rédaction du Point, vous venez d'interviewer Woody Allen à la veille de la parution en France de ses mémoires. Ce livre qu'a failli ne pas sortir parce que sa maison d'édition américaine a cédé aux protestations de ses employés. On va y revenir. Mais d'abord, elles sont comment ces mémoires ?
Ah ben, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment lui, c'est sa voix, c'est un... C'est tout à fait romanesque, un roman d'initiation, c'est toute sa jeunesse, ses débuts, jusqu'à aujourd'hui. C'est un roman philosophique parce qu'il y a les maximes de Woody Allen du genre « être misanthrope, ça a du bon, les gens ne vous déçoivent jamais », vous voyez ce genre de choses. C'est un roman noir, trash, policier quand il parle de l'affaire, et c'est tout à fait plaisant, instructif, et aussi assez vengeur quand même, parce qu'il mâche pas ses mots, il rend surtout vraiment coup sur coup par rapport à l'affaire Mia Farrow et les accusations qui lui sont tombées dessus.
Ces récits de jeunesse où il apparaît comme dans ses films, faux intello, dragueur maladroit.
Oui, alors c'est assez génial ça, parce que c'est vraiment aussi un hommage à la culture, hein, ce livre. Woody Allen était quelqu'un qui se présente comme un culte, et en fait, il a été conduit à regarder les grands films, à lire les grands classiques, à lire Kafka, à lire Tolstoï, tout simplement parce qu'il était amoureux de filles très très belles, très très sexy, très très intelligentes, très très profondes, et il avait pas envie d'être un gars ridicule, et après un certain nombre de râteaux, il s'est dit, faut que j'ai lu les grands auteurs pour paraître moins stupide, et dès lors, sa vie... érotique et existentiel et artistique a pris un autre tour beaucoup plus satisfaisant. En tout cas, c'est lui qui le dit.
Ouais, il vous dit, j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai eu de la chance. Et aussi, j'ai toujours vu ma vie sous un prisme comique. Et vous avez souligné à quel point c'était agréable et drôle à lire cette vie. Alors, donc, avec des pages consacrées à l'affaire Woody Allen, celle qui lui vaut cet opprobre, malgré l'enquête judiciaire qui a conclu que non, il n'avait pas commis d'abus sexuels sur sa fille adoptive Dylan, il y a plus de 30 ans. Il explique cela par la vengeance d'une femme ?
Oui, il parle d'elle. D'ailleurs, il cite une phrase terrible. C'est-à-dire que d'ailleurs, il faut rappeler un certain nombre de choses aussi qui sont toujours un petit peu dans le brouillard, parce que les gens racontent aussi n'importe quoi. Sunny n'était pas la fille de Woody Allen. Sunny n'était pas mineure quand ils ont eu une histoire. Et en fait, quand Mia Farrow découvre justement la liaison qu'il a avec sa fille adoptive Sunny, avec la fille adoptive de Mia Farrow, eh bien, elle devient absolument folle de rage. Et il y a cette phrase qui est rapportée, il a voulu me prendre ma fille, je vais lui prendre la sienne. Donc il est extraordinairement pas tendre avec Mia Farrow, et il raconte un certain nombre de scènes qui vont faire tomber de leur chaise un certain nombre de gens qui n'ont jamais voulu entendre, ou même lui laisser Woody Allen s'expliquer et donner sa version, qui est quand même la version de l'accusé, qu'il est quand même bon et sensé et humain d'entendre, en tout cas quand on instruit un procès contre quelqu'un.
Ce qui était étonnant dans l'interview qu'il vous a accordée, c'est cette forme de détachement qu'il manifeste vis-à-vis de cette histoire. Il se dit étonné des réactions du milieu du cinéma, mais pas accablé, pas blessé.
Non, pas accablé. Alors, il faut rappeler aussi, quand on est le milieu du cinéma, il a eu aussi un certain nombre de témoignages, de gens qui ont été de son côté, qui sont des gens de poids. Hein, quand on parle d'Almodovar, quand on parle de Javier Bardem, quand on parle d'un certain nombre même de cinéastes américains. Donc, effectivement, il explique un mécanisme qui fait peur, d'ailleurs. Et il cite un certain nombre de gens qui disent, tu vois, Woody, moi, en fait, je pense que t'as rien fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu comprends. Je peux pas le dire. Si je le dis, ma carrière est foutue. Et il a cette formule très très drôle, Woody Allen, il dit « Dire qu'on ne voulait pas tourner avec moi était aussi branché que la dernière formule de régime à base de choux calés. » Voilà, c'était devenu tendance de dire à Hollywood, de dire qu'on ne voulait pas tourner avec lui, alors même que tous ces gens qui refusaient avaient rêvé de ça toute leur vie. Mais il dit, ça manquait pas d'ironie, puisqu'en fait, ce que me disent ces gens qui disent, je peux pas te soutenir ouvertement, c'est effectivement les raisons qu'avançaient les femmes qui avaient été harcelées pour expliquer pourquoi elles n'avaient pas dénoncé leur harceleur, car leur carrière en aurait souffert. Vous vous souvenez, c'était l'argument au moment de l'affaire Weinstein. Donc il est très, vous avez raison, non pas détaché, parce qu'on sent quand même qu'il a accusé le coup, mais d'une part, il est très heureux. En ménage, avec Sunny, avec ses filles. Il est plein de projets et il est lucide. Et ça, c'est assez, d'ailleurs, assez tragique, je trouve. Moi, c'est ce qui m'a surpris quand j'ai eu au téléphone, c'est que il se fiche totalement. Alors, après, c'est peut-être une pause aussi, mais de la postérité. Quand je lui demande, mais est-ce que finalement, c'est pas gênant pour la suite qu'on retienne de Woody Allen, à la fois les films, mais aussi ses accusations, qui certes ont été tranchés par la justice, mais qui continuent à ressurgir. Il dit, je me fiche totalement que la postérité retienne de moi que j'étais un grand cinéaste ou un pédophile. On peut dire que je suis un serial killer ou un braqueur de banque. De toute façon, mes films y sont faits. Shakespeare, on a beau le fêter comme un roi, etc. Shakespeare, il est mort. Moi, je serai mort. Et il a cette expression qui est terrible. De toute façon, la chasse d'os tire pour tout le monde. Et puis après, il varie un peu dans l'expression. C'est un peu plus poétique. Les lumières s'éteignent et de toute façon, on n'est pas là pour le voir.
Et il pense, c'est son regret, son plus grand regret, ne pas avoir fait de grands films à l'image de ceux qu'il admirait quand il était adolescent ou jeune adulte. D'ailleurs, c'est là où il y a de la nostalgie, hein, c'est sur la culture dominante qui a envahi nos écrans, sur l'effacement du cinéma d'auteur. Truffaut, René, Antonioni, Kazan, tous les types que je voulais impressionner quand j'étais plus jeune, sont tombés dans l'abîme qui semble s'ouvrir devant nous, écrit-il.
En fait, ce que j'adore dans ce livre et ce qu'il dit dans l'interview, c'est qu'en fait, on sent très bien, et c'est toujours ce qui m'a frappé avec les gens qui sont vraiment de grands, grands artistes. C'est-à-dire que la culture et pas un vernis, la culture est presque une érotique. Au fond, on aime les grands films, on aime la grande littérature parce que ça nous fait du bien, parce que c'est drôle, parce que c'est rebelle, parce que c'est mordant, parce que ça fait jouir de la vie d'une façon beaucoup plus intense. Et en fait, lui, on sent que tous ces grands auteurs qu'il a lus et tous ces grands réalisateur qu'il a connu, il parle beaucoup de Tennessee Williams, par exemple. La chose qui lui fait plaisir, c'est quand Tennessee Williams à New York lui dit « On me dit que vous êtes un grand artiste, Woody Allen. » Et là, c'est le truc qui compte presque le plus dans ses mémoires. Et en fait, il s'aperçoit que l'époque est terminée et que les studios pensent juste, il est même plus question de cinéma. C'est pas un ennemi du box-office. Il parle souvent du box-office, Woody Allen. Mais simplement, il expliquait qu'avant, il y avait une demi-mesure. C'est-à-dire que le box-office comptait, mais il fallait que ça ait du sens. Il dit aujourd'hui, il parle d'un abîme. Un abîme qui attend le cinéma, on est déjà un peu dedans, qui fait qu'on veut du profit à court terme, on veut que le box-office, et le cinéma n'est plus un événement. Les blockbusters ne sont plus un événement en dehors de la sphère commerciale. Ça a plus de sens, ça a plus de profondeur. Et il rend vraiment, vraiment hommage aux actrices qu'il est loin de traiter simplement comme des corps, comme des visages. Diane Keaton, portrait formidable. Donc, c'est à la fois lucide, mais quand on lit ça et quand on lit le livre, on n'a qu'une seule envie, de créer, de faire des films, de faire des livres. Et moi, j'adore, et j'ai terminé d'ailleurs les extraits qu'on publie dans Le Point par ça. C'est ça, c'est un peu comme une lettre à un jeune cinéaste.
Ouais, c'est conseil, ouais.
Ouais, il dit, et c'est pour ça que c'est très, très humain et très terre à terre et en même temps céleste. Il dit, restez concentrés sur vos tomates. Appliquez-vous, bossez dur, prenez plaisir au travail. Si vous n'en approuvez pas à changer de métier, ne cherchez pas à imiter les autres. Vous avez votre propre idée de ce qui est drôle. Vous connaissez le but à atteindre. Pas besoin d'en savoir plus. Vous avez une vision. Efforcez-vous de la concrétiser.
Merci beaucoup, Christophe Naudibio. Votre interview à lire dans le dernier numéro du Point et les mémoires de Woody Allen. Rappelez-moi le titre, c'est Soit dit en passant.
Soit dit en passant, ça sort le 2 juin, donc il faut encore patienter. On peut le lire en anglais déjà. Je voudrais juste dire un petit mot, sur l'éditrice américaine, oui. Janet Seaver, qui a, contre vents et marées, décidé de publier ce livre et qui le fait aussi par fidélité envers son mari Dick Seaver, qui est l'homme qui a publié en fait les plus grands infréquentables. Et elle l'a dit, moi, quand on m'a dit que Woody Allen ne pourrait pas sortir son livre, je suis monté sur mon cheval et je suis parti à la guerre. Et en fait, si ce livre sort, c'est aussi grâce à elle, chez Arcade Publishing. C'est une dame qui a 80 ans et qui a envie de combattre pour qu'au moins on puisse entendre la parole de ceux qu'on veut faire taire.
Merci à vous, Christophe Naudibio. Merci.
Europe 1.
Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à samedi prochain, 9h. Pardon pour le retard dans quelques minutes après les infos de 10h. Mickaël Darmon, bonjour.
Bonjour.
Le grand rendez-vous.
Mon invité, Julien de Normandie, ministre du logement, fondateur du mouvement En Marche. Le macronisme entre en zone de turbulence. Les trois coups du quinquennat vont être lancés.
Merci. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.